par morceaux séparés. Hein. On peut effectivement aller d'un texte à l'autre, mais il y a une cohérence des textes. Et du début jusqu'à la fin, cette quête se vérifie, comme on va le voir, à travers des moments très différents.
À travers des moments, donc des temps très différents et des espaces aussi. Hein. Disons qu'il y a un espace qui est très familier dans la poésie et dans l'œuvre de Clara Janès, qui est l'espace du jardin. Le jardin revient à de nombreuses reprises. Et puis là, le jardin, donc avec tout ce que ça peut avoir aussi de mystique, hein, le jardin se transforme quelque part dans le secret de cette forêt et de cette forêt qui devient véritablement le sujet de l'ensemble du volume. Peut-être qu'on pourrait commencer par un premier texte qui serait non pas le premier mais le troisième et qui est placé dans la fréquentation de ce paysage.
Alors, ce texte s'intitule de façon tout à fait emblématique « Nigredo ». Et on pourra peut-être y revenir, puisque là, il y a cette quête à travers l'obscurité pour arriver à la lumière. Et il y a évidemment énormément de références philosophiques. Et cette quête qui est mystique... Hein, mais qui également va boire à des sources, on verra, de poètes de l'Orient. Alors, le texte, on va le lire en espagnol et puis on va le lire en français. Las fuentes que de noche no duermen musitaban el enigma. No te detengas a su lado, tú, cuyo objeto es vagar entre los pinos cediendo lastre hasta la desnudez. El abandono de la materia es tu meta. Pura disolución. Acércate tan solo a la hoja mojada por la lluvia, al musgo y a los limos del fondo del estanque. Busca la oscuridad más densa, entrégate a su don, que el ser ya no es pasado ni presente ni futuro, es ir hacia el no ser. Mas ese errar por los bosques se parece al infinito, y mi andadura oscilante dibuja su signo.
Les sources qui la nuit ne dorment pas, murmuraient l'énigme. Ne t'arrête pas à leur côté, toi qui erres parmi les pins, te délestant jusqu'au dénuement. L'abandon de la matière est ton but, pure dissolution. Approche à peine de la feuille humide de pluie, des mousses et des limons du fond de l'étang. Recherche l'obscurité la plus épaisse, abandonne-toi à ce don, car l'être n'est plus ni passé, ni présent, ni futur. Il est cheminement vers le non-être. Mais cette errance dans les bois ressemble à l'infini, et ma démarche hésitante en ébauche le signe.
Ici, on a vraiment cette évocation d'une poète ou du poète qui se veut en totale nudité, et qui va se disposer à être l'écho des énigmes et de leurs solutions possibles. En fait, cette quête, c'est aller chercher un savoir ignoré, qui lui est étranger, qui échappe à son pouvoir, en victime duquel il se transforme en quelque sorte. Hein. Cette idée, elle a été reprise par Barthes et par d'autres, cette espèce d'auto-immolation. On engage son être, sa sensibilité, ses facultés. Il s'agit presque d'un chemin donc, de dépouillement, d'une ascèse, et pour mieux se fondre dans le monde. Là, on le voit bien. Toi qui erres parmi les pins, te délestant jusqu'au dénuement. Ici, on a cette langue du mysticisme. On se déleste du poids que l'on porte, et l'acte d'écriture transforme ces éléments de la corporéité. On doit trouver un moment où il va y avoir une intersection entre les sens et le spirituel. Donc ce cheminement évoque évidemment un processus relativement énigmatique, d'où le mot secret, qui revient d'ailleurs très souvent dans l'œuvre de Clara Janès. Il faut savoir quitter le monde, en quelque sorte. Et la forêt, comme le jardin labyrinthique qu'on a évoqué tout à l'heure, est un espace fertile pour la contemplation.
Oui. Et l'abandono de la matière est tumita. C'est terrible, voilà. Ça.
Se dissoudre pour pouvoir mieux accueillir. Et alors ce mouvement de la dissolution s'accompagne évidemment d'une recherche qui passe par de l'obscurité à la lumière. Alors Clara raconte souvent dans cette maison de Pedralbes que le soir elle regardait les étoiles et qu'elle se laissait pénétrer par l'obscurité pour mieux pouvoir accueillir la lumière. Et on verra que le livre se referme finalement avec l'image de cette aube qui vient l'éclairer, hein, ces aurores flamboyantes qui sont en fait la vérité. Elle trouve là la réponse à certaines de ces énigmes. Mais ce qui est important, c'est ce dépouillement, cette ascèse pour pouvoir se remplir et de l'autre, parce qu'il y a évidemment cette dimension amoureuse, érotique même, que l'on retrouve aussi dans le mysticisme.
L'oubli de soi.
Voilà, et accueillir le monde. Oui. Et le monde passe par les sens, mais ensuite c'est le spirituel.
Si l'autre est là, l'autre effectivement prend une espèce de valeur d'amant, hein, puisqu'on est dans une ligne du mystique qui fait partie de la tradition fondamentale de la poésie espagnole, de la lyrique espagnole. Et en fait, ce qui est intéressant, me semble-t-il, avec cette poésie de Clara Janes, c'est comment justement elle rattrape toute cette tradition mystique qui est à la fois espagnole, mais qui est d'une manière plus générale orientale, qui est marquée par l'Orient, et comment elle rapporte et elle reconstruit à la fois la rencontre avec l'autre, à la fois ce dont parlait Solange, cette dissolution dans le monde, dans un paysage finalement, ce paysage de forêt qui est une espèce d'environnement un peu idéal à l'ensemble du processus qui est en train de se mettre en place pour transcender ou pour être transcendé à son tour par l'aventure et par l'expérience.
Alors, si vous le voulez bien, on va illustrer ça par aussi un des grands poètes métaphysiques espagnols, qui est Federico García Lorca, donc un poème qui a été mis en musique par Gérard Zucchetto. On écoute.
Thank you.
venez d'entendre donc ce poème de Lorca, qui a été mis en musique par Sandra Hurtado Ross, qui travaille, je crois, actuellement, Sandra Hurtado Dox, qui est publiée par Gérard Zucchetto aux éditions Tropavox, dont j'ai parlé tout à l'heure, Gérard, et qui travaille, je crois, maintenant sur une mise en musique des poèmes, justement, de Clara Janes.
Oui, donc, c'est intéressant de voir que ce livre, initié par Modesta et Solange, finalement, ça va être plus qu'un livre. Ça va être la présentation d'une poète importante, ça, vous l'avez déjà dit, dans un prolongement musical, puisqu'elle est très sensible à la musique, elle parle beaucoup de musique à Cagliada, comme à la façon de Maria Sembrano, que Sandra met aussi en musique, qui comme Clara Janes, met beaucoup de musique dans le son de ses mots. Et cette musique qui n'est pas exposée, mais qui est beaucoup intériorisée, c'est un pari que fait Sandra en ce moment et qui aboutira, je l'espère, à la présentation d'un concert, d'un récital Clara Janes à Madrid.
À la Casa de Velázquez.
À la Casa de Velázquez, peut-être au printemps.
Wow. On espère au printemps, voilà. Effectivement.
Alors, tu as parlé de Maria Zambrano. Il faudrait peut-être en dire un mot. Hein,
D'abord, Maria Zambrano est effectivement une autre des très grandes voix de la lyrique contemporaine, voix de femme dans la lyrique espagnole. Il n'y en a pas non plus énormément à l'époque où Maria Zambrano, c'est-à-dire on est à la fin de la première moitié du XXe siècle, deuxième moitié du XXe siècle, et Maria Zambrano et Clara Janes ont été très amies, c'est-à-dire que là il y a véritablement une continuité, on est dans une généalogie, on est dans une approche qui est commune, de la même manière que les trois poètes qui ont été mis en musique par Sandra, que l'on va écouter au long de cette émission, constitue d'une certaine manière un paysage sonore qui fonctionne très bien avec la poésie de Clara Janes, parce que quelque part c'est aussi ce paysage contemporain de ce XXe siècle espagnol. Maria Zambrano est une des grandes poètes et philosophes espagnoles, et là on est véritablement sur des recoupements, des carrefours à chaque fois, sur chacune de ces voies, de réflexion, d'expérience, de manière de considérer le monde, qui sont quand même intéressantes dans cette Espagne du milieu du XXe siècle, qui était une Espagne, disons, d'une obscurité, d'un retrait, justement, qui était comme, enfin, où ces voix-là, où ces textes-là étaient comme des fulgurances dans cette obscurité.
Alors peut-être justement pour revenir sur Maria Zambrano, il faut savoir qu'elle a publié un ouvrage dont la traduction en français est « Clairière de la forêt ». Hein, et donc où elle parle justement de cette quête, elle aussi. Hein, et parlant de l'écriture de son livre, elle dit qu'elle ne va pas raviver la mémoire, mais qu'elle va se dessaisir, cesser d'être, donner tout. Car pour elle, le plus grand événement, c'est de se livrer à l'entendement passif, à la sensibilité. Recevoir le monde. Et là, je crois qu'on a effectivement, encore une fois, un cheminement qui fait que ces deux grandes figures, personnalités, convergent. Et pour revenir à la musique, si je peux me permettre, Clara évoque souvent le couvent des sœurs moniales, hein, qui près de la maison de Pedralbes, dont elle entendait le chant le soir, et qui l'a beaucoup marqué, ce chant des sœurs qui étaient là, Monial, et également sa mère, qui joue du clavecin, et la fréquentation de Mompou, Federico Mompou, dont la musique, c'est la musique du silence. Et Clara nous dit, cet éveil à soi peut se faire soit dans l'absence, soit dans le silence. Et là, je crois que nous avons encore une fois un retour à la musique. L'espace n'est pas vide, il est plein de vibrations. Là, on retrouve encore ce cheminement vers la science. la physique quantique, les particules, tout ce qui bouge. Nous sommes dans un monde en mouvement perpétuel.
Et dans ce monde en mouvement perpétuel, je ne perds pas le fil où nous étions sur la rencontre amoureuse, parce qu'il y a un très très beau discours amoureux qui est comme une espèce de métaphore filée tout au long du recueil, qui fait qu'il y a une espèce de découverte, perte constante de cet objet, et donc une manière de multiplier l'intérêt qu'il y a à la fois à la quête, au pèlerinage, essayer de retrouver l'autre. On peut peut-être lire toutes les deux ce poème, le septième poème. Tras los arbustos apareció montado en su alazán. Desenvainé mi espada. Él separó las ramas que escondían su rostro y me miró con esos ojos que son luz. Me quedé inmóvil, el corazón prendido de su luz. Y ya estaba a mi lado y me exigía la bolsa de monedas. Con la mano la cogió, con la otra tocó mi hombro y al punto el ramaje se cerró con un leve susurro y cayó la hora.
Derrière les buissons, il apparut monté sur son alezan. Je tirai mon épée. Il écarta les branches qui cachaient son visage et me regarda avec ses yeux de lumière. Je restais immobile, mon cœur pris dans la lumière, et déjà il était à mes côtés, me réclamant ma bourse de pièces. D'une main il la prit, de l'autre il effleura mon épaule, et aussitôt la frondaison se referma avec un léger bruissement, et l'heure tomba. Oui, c'est la rencontre, encore une fois, c'est la rencontre, mais c'est aussi dans cette poésie quelque chose qui est relative, très proche de l'expérience mystique et amoureuse. Et parce que la poésie est à la fois une révélation, un embrasement, le poète est poussé par le désir et il laisse échapper de lui les mots qui prennent alors forme. Une forme qui est reconnaissable, en éternelle évolution, une forme ouverte, une constante réinvention. Ici, il était à mes côtés. Il y a un autre poème de Clara, le jumeau. Ce double dont on ne sait pas très bien, c'est l'amant, c'est l'aimé, c'est le désiré, c'est celui que l'on recherche et qui l'accompagne dans cette quête. Il y a cette fusion des deux. En fait, il y a le moi et l'autre. Et le moi et l'autre se retrouvent pour ne faire plus qu'un.
Alors, ça c'est le discours amoureux. En fait, ce qui nous a intéressé aussi, Solange et moi, finalement, c'est d'un recueil qui peut se lire à plusieurs niveaux. C'est-à-dire, on est à la fois, Solange utilisait le mot de palimpseste qui peut faire peur parce que cela veut dire qu'il y a trop de traditions et que on ne contrôle plus, on ne sait plus où s'arrêter pour aller chercher la source, pour essayer de voir comment les enchaînements ou quelles sont, d'une certaine manière, les citations qui sont en soubassement des vers. Donc il y a cette partie-là qui est une partie exigeante aussi avec son lecteur, sa lectrice, c'est-à-dire d'aller au-delà de ce qu'on est en train de lire. Et puis, il y a aussi quelque chose de beaucoup plus immédiat et comme d'une perception du monde où, en fait, c'est une extraordinaire présence au monde. Et il y a un tout petit poème qu'on pourrait lire qui est le poème 9. Si tu veux bien, Solange, et si tu veux bien commencer, où justement, là, on est sur de la perception. Et cette perception, elle dit sans doute la sensation qui est celle de la voix poétique, mais c'est une sensation que l'on peut habiter comme lectrice.
Y la voz se hizo ráfaga de viento y huyó hacia el bosque de abedules, en cuyos troncos descubría la luna la escritura amorosa de los años. El cuchicheo nocturno destellaba.
Et la voix se fit rafale de vent et s'enfuit vers le bois de bouleau. Et sur leur tronc, la lune révélait l'amoureuse écriture des ans. Le bruissement nocturne resplendissait.
C'est...
Là...
Oui, pardon. J'allais dire que là, en fait, c'est une expérience d'habiter la nuit, enfin d'être dans le paysage, dans un paysage nocturne, qui est marqué finalement par l'écriture et par la littérature, parce qu'effectivement, tout paysage est marqué par la représentation. Mais en même temps, c'est quelque chose que l'on peut aborder dans une intimité avec le texte et une intimité très contemporaine qui n'a pas besoin de cette profondeur des siècles.
Et par ailleurs, on retrouve là encore un de ces fils conducteurs qui nous mènent donc le long de cette quête de Clara à travers la présence d'une voix. Alors la voix, c'est la sienne, c'est la voix poétique, bien évidemment, c'est la voix. La voix qui est frémissement, vibration, résonance et qui participe de l'énergie cosmique. Il y a dans un autre texte d'elle qui est important, Le mot et le secret, tout un chapitre qui est consacré à la voix où elle explique que la première manifestation poétique, la première manifestation humaine, c'est cette vibration à travers la voix. La voix qui en quelque sorte est un pont entre l'intérieur et l'extérieur, qui est en devenir et dont le rythme ouvre l'espace vers un avant. C'est vraiment à travers cette voie que le poète retrouve les formes fluides de la vie. Et là, évidemment, nous avons aussi à d'autres poèmes où la voix apparaît, ce qui me permet de faire la transition vers le poème 27, où nous avons encore une fois la présence de la voix. Alors, tu veux peut-être lire.
Oí en la senda, no temas al espejismo, que la verdad revela. La apariencia es cobertura y la voz encierra el secreto y vence al ser. Por ello, en el vacío se manifiesta.
J'entendis sur le chemin, ne crains pas le mirage, car la vérité révèle. L'apparence est enveloppe et la voix détient le secret et l'emporte sur l'être. Et ainsi, dans le vide se manifeste. Alors un poème qui peut être considéré comme difficile,
hermétique,
parce
oui.
qu'il est même hermétique dans la mesure où il referme de façon extrêmement concentrée toute cette recherche, toute cette quête. La voix, encore une fois, elle est l'écho de ce qu'il y a de plus profond finalement, de plus secret en nous, une voix qui nous mène à la nature grâce à des connexions intuitives. Mais en même temps, une voix qui détient le secret et qui l'emporte sur l'être, parce qu'il faut être dans le non-être pour pouvoir recevoir. Le jeu poétique ici, le jeu du poète, donc, c'est vraiment la fusion avec la nature, mais également ce désir de dépasser l'apparence, d'entrer en fusion, de s'identifier à la vie intime qui émerge des profondeurs pour donner un fruit. Donc on écoute les voix secrètes. Ça peut être les voix secrètes des fleurs, le tintement, comme c'est le cas des muscaris ou d'autres fleurs dans les poèmes, qui répond à l'écho de la prière de la nuit. Donc là, nous avons un désir d'aller au-delà de ce que nous voyons. La réalité, elle est là, mais il y a autre chose que cette réalité. En fait, il y a plusieurs niveaux de réalité. Et là, nous retrouvons évidemment la poésie d'Ibn Arabi, mais Mansour al-Alar également, arriver au huitième climat, à travers une ascension qui va se faire, à travers différents niveaux de la réalité et à travers lesquels nous allons pouvoir justement faire cette jonction entre sens et spiritualité.
Oui. Je pensais à Rumi aussi.
Rumi, très Rumi, important
oui,
également.
Oui, des accents. Absolument. C'est une démarche mystique qui est comparable à cette démarche orientale. Hein.
Exactement. Et une démarche aussi qui passe par la musique,
oui,
la musique mystique, les derviches, chercher le centre, chercher ce qu'il y a de plus profond, aller du bas vers le haut finalement, et redescendre également.
Elle continue quelque chose, Clara Janes.
Mais elle est dans cette filiation essentielle, et c'est ça qui fait tout son intérêt, parce qu'elle accueille toutes ses voix. Et quand on lit sa poésie, on a vraiment l'impression qu'on peut pénétrer à travers toutes ces voix. Alors effectivement, ça nous donne envie de les lire, ces auteurs. Et je pense que là, on a aussi quelque chose de particulier avec Clara Janes, c'est qu'elle nous incite à la lecture. Elle nous incite à écouter les autres voix. Et ça, je crois qu'elle nous offre la poésie en tant que telle, en tant que poète. Et pas seulement la sienne, celle des autres.
on va peut-être écouter un des grands poètes aussi. Avant cette période de l'obscurité, hein, qui a été Machado. Mmh.
No te aferres al pasado, ni a los recuerdos tristes, no hagas la herida que ya cicatrizó, no reviva los dolores y sufrimiento antiguo, lo que pasó, pasó. Y ahora en adelante, con tu fuerza en construir una vida nueva orientada hacia lo alto y camina de frente sin mirar atrás.
C'était toujours Sandra Hurtado Ross, donc, qui chantait Lo que paso paso de Antonio Machado et qui publiait toujours aux éditions Trobavox. Alors nous étions donc avec Solange Gibbs et Modesta Suarez et nous parlions de Clara Janes.
Voilà, et nous parlions de paysages et peut-être parler un tout petit peu de ce tout petit, très bref poème qui est le poème 45 et justement voir comment on joue à la fois l'accueil, l'intimité, quelque chose qui se referme. Cette forêt, elle est secrète mais elle est accueillante, elle est protectrice. Et là, en quelques vers, on a un paysage brossé avec une extraordinaire douceur. Et en à peine quelques images, on se retrouve dans un monde qui est un véritable refuge. Je lis l'espagnol. Me acerqué al lago. En las aguas respiraba todo el bosque con el mismo aliento, autocobijándose en la negación del horizonte.
Je m'approchais du lac. Dans les eaux respirait toute la forêt d'un même souffle, se réfugiant dans la négation de l'horizon.
Et on comprend, me semble-t-il, que cette négation de l'horizon, elle n'est pas du tout négative. Ce n'est pas du tout une manière de se couper du reste du monde, mais c'est une manière de retrouver le monde à l'intérieur de soi et de faire un refuge de cette forêt. Et c'est très simple
Ce sont quelques vers. Il n'y a pas du tout une espèce d'empêchement par le vocabulaire ou un empêchement par la syntaxe. Il y a au contraire quelque chose d'extraordinairement limpide, quelque chose qui est accessible. Et ça se passe, on le retrouve, hein, c'est une démarche poétique que l'on retrouve véritablement très très souvent dans la poésie où, eh bien oui, peut-être les deux vers suivants vont être plus compliqués, mais il y a quand même quelque chose qui est là pour accueillir celui et celle ou celle qui s'approche de ce vers.
Alors c'est intéressant de voir que là on a un paysage atemporel, finalement, mais en même temps, on a aussi des poèmes de Clara qui se construisent avec des abstractions successives. Là, on est dans une abstraction, la négation de l'horizon. Hein. Mais je pense que le jeu qui est là montre que le poète n'est qu'un élément de ce vaste mouvement. Hein. Tout naît, tout meurt, et le poète nous révèle également qu'il y a une énigme. Et que cette énigme, eh bien, il va pouvoir la découvrir, il la ressent, il la pressent. Hein. Il y a ce mouvement du poète vers le réel et également du réel vers le poète. Contempler le monde, c'est se contempler soi, c'est être un éveillé, hein, pour reprendre les termes de certains poètes perses.
Oui, oui, tout à fait.
Être en éveil, être un éveillé.
Oui. Il vaut mieux avoir cette explication que vous donnez, qui est quand même très didactique, hein, parce que se réfugier dans une négation de l'horizon, c'est vrai que ça peut être déroutant. Comment on peut se réfugier dans une négation?
Bon, d'abord parce qu'il existe quand même dans la mystique la voie négative aussi, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout la négation, là il faut vraiment la remettre
dans son contexte,
dans un contexte et puis dans une dialectique en fait, là je pense qu'on ne peut pas faire sans cette dialectique qui va être aussi la dialectique du jour et de la nuit, de l'ombre et de la lumière, et là à la fois la négation et puis l'idée de refuge, alors qu'on pourrait, ou en tout cas, me semble-t-il, c'est une poésie qui nous oblige à travailler le paradoxe et à l'accepter parce que avancer, de toute façon, est paradoxal.
Et cette négation, elle est positive. Voilà. C'est le non-être pour pouvoir arriver à l'être. Oui. C'est ça, c'est se dépouiller. On est encore dans cette idée du dépouillement.
Et ce texte en est l'illustration absolue du dépouillement. C'est presque un squelette de ce poème, hein. Squelette de mots, tellement chaque mot est à une intensité terrible.
C'est une espèce de dénudation, hein. On se dénude complètement, on se dépouille complètement face au monde, hein. Et le monde est là, il continue, il nous accueille, on peut s'y réfugier, on peut s'y abriter, il y a une osmose, hein, entre l'homme et le monde.
Alors, il y a peut-être un terme que l'on n'a pas utilisé. Tu voulais intervenir sur l'osmose.
Je voulais juste dire qu'on voit là que Clara Jarnès a beaucoup lu les troubadours, puisque cette négation de l'horizon me fait penser au poème de Guillaume IX d'Aquitaine, le premier, avec toute cette digression sur le néant et le rien. Voilà, donc l'importance pour être d'accepter le non-être.
Et il se trouve, elle raconte, que son père, qui était un éditeur quand même connu, lui avait offert un calepin où il y avait des poèmes de Bernard de Ventadour. Elle était toute jeune et ça fait partie de cette première lecture qu'elle a eue, de poète. Voilà. Pour revenir un petit peu à ce que tu disais, Gérard.
Alors, pour ne pas rester fondamentalement sur une note sombre, il y a un mot qu'on n'a pas utilisé encore et qui quand même, d'abord, c'est quelque chose qu'on entend au fur et à mesure, y compris dans les poèmes qu'on a déjà lus, mais c'est un chromatisme à l'intérieur de ces images. Il y a énormément de lumière. Sans doute que pour mieux voir la lumière, il faut qu'il y ait le contraste justement avec cette obscurité, avec cette nuit. Et il y a un chromatisme qui va jusqu'au bout. Là, on est à la fin du recueil, on est sur les derniers poèmes. Peut-être qu'on pourrait lire le 65, par exemple. Tu veux que je commence?
Alors, le 65.
Se abrieron los mil párpados de la rosa. Nació la aurora.
y el cielo se llenó de doradas monedas. En perla clareó el paisaje y toda forma.
Les mille paupières de la rose s'ouvrirent. L'aube est née et le ciel s'emplit de pièces d'or. Le paysage s'illumina de nacre ainsi que toute forme. L'étonnement, la perplexité sont toujours lumière de l'aube. Et là, l'aube suit l'obscurité nocturne. C'est ce qu'on appelle la cognitia matutina, l'éveil à soi, l'éveil à soi-même, qui prennent, on l'a déjà dit, consistance dans le silence ou dans l'absence. Et l'aube, c'est le moment de la révélation. Alors, Saint Jean de la Croix, qui a été évidemment une référence absolument incontournable pour Clara Janès, et qui, dans son cantique, invoque les levants de l'aurore. Moment où se révèle la beauté et le monde de l'ange, pour le mystique persan, Sorabardi. Alors le monde de l'ange, c'est le monde de l'imagination, c'est ce monde intermédiaire entre les sens et le spirituel qui nous permet d'être ouvert. C'est l'irradiance du feu spirituel qui porte l'âme à l'incandescence. Les pièces d'or, et nous avons également s'illumine. Ces pièces d'or, alors là on retrouve évidemment le langage de l'alchimie, puisqu'on peut passer par différents registres, la métamorphose, la fusion extrême qui va permettre d'arriver de la matière première à l'or, qui est la perfection quelque part, ainsi que le nacre, qui exprime cette transparence ou cette transprésence. En fait, c'est un mode de vision de l'âme, la vision à laquelle on perçoit l'aboutissement d'un périple. Un périple après le cataclysme initial de la nuit, eh bien cette nuit se fait révélatrice et les images s'apaisent et les ténèbres s'entrouvent, offrant la vision, l'intériorisation. Là, je viens de citer quelques mots de Clara Janès qu'elle avait donc écrit dans Le mot et le secret.
Et donc un apaisement qui trouve ces ultimes images dans le dernier poème, dont le sous-titre Vita Nuova évidemment ramène à Dante, c'est-à-dire une tradition qu'on n'a pas encore véritablement abordée, mais qu'on aborde d'une certaine manière par la mystique, qui est quand même cette renaissance et ce monde italien qui irrigue, pour le coup, Dante va irriguer la poésie occidentale jusqu'à maintenant, du moment où cela naît jusqu'à maintenant. Et c'est le dernier poème.
Alors peut-être qu'on aurait dû insister sur celui qu'on a lu, qui s'intitule « Aure aura ». Donc c'est vraiment l'heure de l'aube. Là, on est à la fin du recueil et on voit bien qu'on va vers cette ouverture. Et là, nous avons cette exaltation finale, cette culmination de la quête. Campos bajo el rocío y el árbol en su danza transformante. Algo más que la calma vuelve a mí. Ascendemos a la desaparición en el abandono del peso y las ondas del aire. En cerco de alegría, que no es olvido ese despojamiento. Se esboza un hueco y el que acude penetra como un pájaro en la prístina acogida mientras cruzan los espejos interiores, los rostros todos del amor y la delgada línea del horizonte dice, no hay forma en el más allá, ni fuga, no hay sombra, ni luz, ni concreción.
Des champs sous la rosée et l'arbre dans sa danse bouleversante. Au-delà du calme, je me sens transportée. Nous montons vers la disparition, loin de la pesanteur et des vagues de l'air dans une ronde de joie. Ce n'est pas l'oubli, ce dépouillement. Un creux se dessine alors et celui qui arrive pénètre comme un oiseau dans l'accueil immaculé, tandis que traversent les miroirs intérieurs les visages mêmes de l'amour, et que la fine ligne de l'horizon dit « Il n'y a pas de forme dans l'au-delà, pas de fugue, il n'y a pas d'ombre, ni de lumière, ni de concrétion. » C'est quand même un anéantissement dans la lumière, en fait. C'est une forme
de dissolution, oui. Mais qui renvoie effectivement à des images qui fait terriblement écho avec d'autres. Alors, à la fois avec sa propre poésie, hein, c'est-à-dire on va retrouver ces images-là et cet imaginaire-là dans la poésie même de Clara Janes, et puis, bien évidemment, elle est dans une très, très longue tradition de cette abolition de l'être et de cette manière de pouvoir communiquer avec tout ce qui est ailleurs.
Par le dépouillement.
Par le dépouillement.
Par le dépouillement, je crois. Et là, il est, c'est dans... c'est un espoir chamien, c'est très clair. Quoi. Elle dit ça. Il faut, pour arriver à ça, paradoxalement, vous ne pouvez y arriver que si vous arrivez à ce dépouillement ultime. Voilà. Il faut vraiment être... À la fin du dépouillement, c'est à la fin du dépouillement que l'illumination va arriver.
Alors peut-être qu'à ce sujet, on pourrait évoquer quelques poètes. Alors il y en a eu énormément qui l'ont influencé, mais il y a Eliot, hein, ah oui. Les élégies de Dwayne, et puis il y a aussi... Rilke. Ah oui. Il y a Eliot, oui. les quatuors d'Eliot, pardon, et puis il y a aussi Vladimir Holand. Et alors Vladimir Holand, qu'elle a traduit et avec qui elle a eu une complicité affective, amoureuse, probablement platonique, hein, elle a appris le tchèque pour pouvoir aller le rencontrer et le traduire. Elle a d'ailleurs eu un prix pour la traduction de l'œuvre de Vladimir Holand. Et donc Vladimir Holand, Une nuit avec Hamlet, est une des œuvres qui a marqué Clara. Et justement, cette œuvre, c'est comment pénétrer dans l'obscurité pour pouvoir accéder ensuite à la lumière. Vladimir Holand est interdit. Pendant 32 ans, il fait le choix de résister en s'enfermant chez lui, en s'enfermant et ne sortant pas et vivant dans l'obscurité. Et il raconte comment cette obscurité, qui est une douleur, est un dépouillement, est une façon de résister et d'être libre quelque part. Donc là, je pense qu'on a encore une fois comme des miroirs. Elle parle de ces miroirs finalement. Ces miroirs, c'est les miroirs évidemment de tout ce qu'il y a autour d'elle, mais également tous les miroirs qui lui renvoient les œuvres et les bois des autres. Voilà, j'ai pensé que ça pouvait être intéressant peut-être aussi d'évoquer cela.
Vladimir Holand, vraiment, oui. Et bien, ça illustre bien Vladimir Holand. Les éditions Poepsi, les éditions RS, l'ont publié, c'est vraiment à lire. Hein.
Ah oui,
mais je n'avais pas fait, là, ce que vous me dites.
Toscane aussi. Oui, alors, Toscane, qu'elle a repris sous forme de... Je crois qu'elle l'a repris dans un texte qui s'appelle Pellegrinage. C'est quand même assez emblématique aussi, hein, et caractéristique d'elle. Elle fait le pèlerinage à travers les textes de Vladimir Holand. C'est son propre pèlerinage, mais elle fait le pèlerinage à travers ses textes. Les textes de Toscane, entre autres. Voilà.
Et dans l'ascétisme.
Exactement.
Et dans l'ascétisme. En tout cas, c'est tout à fait passionnant. Hein. Nous allons peut-être terminer par un texte de Miguel Hernández. Hein. Je ne sais plus lequel. C'est,
Antes del odio.
Antes del odio, de Miguel Hernández.
Besos hoy, sombra con sombra, beso dolor con dolor, por haberme enamorado, corazón sin corazón, te las cosas del aliento sin sombra de la creación sed con agua en la distancia pero sed alrededor corazón en una copa donde me lo bebo yo y no se lo bebe nadie Nadie sabe su sabor, corazón en una copa, donde me lo bebo yo, y no se lo bebe nadie, nadie sabe su sabor. Odio vida amor. Odio vida, cuánto odio, solo por amor. No es posible acariciarte con las manos que me dio el fuego de más deseo, el ansia de más ardor. Varias alas, varios vuelos, abate en ella soy, hierros que cercan las venas y las muerden con rencor. Por amor y da batido, pájaro sin remisión. Por amor y da batido, pájaro sin remisión.
Thank you. triste, guirnalda del eslabón, me sabor a carcelero, con sangría paredón, y a precipicio en acecho, alto alegre libre soy, y a precipicio en acecho, alto alegre libre soy, alto alegre libre, libre solo por amor. Me es pequeño y exterior. ¿Quién me encierra una sonrisa? ¿Quién amuralla una voz? A lo lejos tú más sola que la muerte, la luna y yo. A lo lejos tú sintiendo en tus brazos mi prisión, en tus brazos donde late la libertad de los dos. A lo lejos tú sintiendo en tus brazos mi prisión, en tus brazos donde late la libertad de los dos. Libre soy, siénteme libre solo por amor.
C'était la magnifique voix de Sandra Hurtado-Ross, donc qui chantait un poème de Miguel Hernández, Antes del Odio. Le mot de la fin, donc, sur Clara Janes.
Peut-être la relier aux trois immenses poètes dont on a entendu une interprétation par Sandra, à savoir Lorca, Machado et Miguel Hernández, qui partagent sans aucun doute un don, qui est aussi un don des poètes hispanistes, qui est cette capacité à abstraire le monde, mais à partir d'éléments extraordinairement concrets, comme on a pu le voir ou l'entendre dans quelques lectures qu'on a faites avec Solange.
En tout cas, merci beaucoup. Merci Gérard, merci Modesta, merci Solange, de ce très bon moment que nous avons passé ensemble à l'écoute de cette poète donc universelle, mais dont la lecture reste un petit peu difficile. Et que vous nous avez bien fait sentir, et que nous allons pouvoir lire maintenant avec plus d'attention et plus de compréhension. Voilà. Je crois que ça s'imposait aussi, les remarques, toutes les observations sur ces textes, ils ont totalement éclairé, et quelquefois, effectivement, il y a des poètes pour lesquels cette explication est quasiment indispensable. Merci beaucoup.
Merci.
Et à très bientôt. Et vous pouvez réécouter cette émission d'une façon pérenne dans les années qui vont venir sur le site lespoètes.site. Et vous pouvez la faire peut-être écouter à Clara Janes. Il n'y aura aucune difficulté.
Un grand plaisir.
Donc avec lespoètes.site. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée et une excellente semaine à l'écoute de Radio Occitanie, et nous vous disons à la semaine prochaine à 17h.